Alcatraz, 1932. Smith et Coltrane, deux codétenus de la célèbre prison américaine, se repassent le film dans son ensemble.
Tu attends mes ordres et tu y vas.
Ok.
On n'aura que 30 secondes avant la deuxième ronde. Il faudra faire fissa.
D'accord.
T'as pris tout le matériel ?
Oui, corde, couteau, vêtements. C'est bon.
L'un et l'autre nourrissent le projet de tailler la zone, visiter du pays, sortir du trou. Bref, décamper au plus vite de ce pénitencier de la côte ouest avant... Avant quoi, au fait ? Eh ben, avant de crever à petit feu, décrépir comme de vieilles canettes, ratatiner à force d'être resté là à casser les cailloux. Eh oui, enfermés depuis trop longtemps, nos deux voleurs à l'étalage auront eu tout le loisir de mûrir cette évasion qu'ils imaginent amplement méritée. La liberté. Un vieux fantasme. Presque aussi excitant qu'une scène torride avec Gene Harlow.
Chut ! Allez, vas-y !
S'échappant de leur cellule grâce à un double des clés fabriqué avec les moyens du bord, George Smith et Jerry Coltrane se meuvent le pas félin hors les murs, alors que la nuit rayonne de son manteau sombre et protecteur. Longeant couloirs et allées, ils appliquent leur plan avec sérieux.
Attends-moi là-bas !
Ça marche !
Attention !
Entre deux courses, ils aperçoivent un maton au loin. Le pas calme et régulier, ce dernier fait sa ronde, imperturbable. Passé quelques dizaines de secondes, ils s'éloignent, redonnant leur liberté d'action à nos deux compagnons d'infortune.
Allez, go !
Sans attendre, ils se dirigent vers le bout de l'aile gauche du bloc C.
Ouf, on est passé.
Attends encore un peu, mon petit Coltrane. Le plus dur est à venir.
Les lumières de la garde traversent les murs de manière aléatoire. Elles s'insinuent intrusives à l'intérieur du monde nocturne des repris de justice. Mais nos fuyards n'en ont cure. L'important à ce stade réside dans leur capacité à franchir la face est de la structure en béton, avec à son extrémité une colonne en pierre. Après ça, il y a la mer. Et après, tout est possible. Mais avant toute chose, il leur faut atteindre cette fameuse colonne, séparée du reste du bâtiment par un couloir plus bas d'une bonne quinzaine de mètres, utilisé par les matons pour faire leur ronde. Le moyen le plus sûr pour y arriver réside, selon eux, dans l'utilisation de deux cordes, propres à les transporter du point A vers le point B. La course effrénée, ils finissent par arriver à bon port.
Donne-moi les cordes.
Atif, Coltrane, fouille son sac.
Allez, dépêche-toi.
Je crois que j'en ai oublié une.
Non mais tu le fais exprès ? Tu crois qu'on va se permettre d'oublier le matériel ? Mais quel sacré idiot tu fais, motherfucker !
Contrit, le fautif ne dit plus rien. Smith, quant à lui, réfléchit.
Bon, on n'a pas le choix. Il faut utiliser la corde qu'on a. Tant pis, tentons notre chance.
Aussitôt dit, aussitôt fait. Entre deux coups de projecteur de la garde, Smith jette la corde vers l'objectif. Cette dernière vient par chance se fixer de l'autre côté dès le premier lancer. Après avoir ancré son côté à lui avec vigueur, notre homme regarde son cordage long d'une vingtaine de mètres se tenir désormais tendu au-dessus du vide. Une longueur aussi courte qu'insolente.
Yes! Allez, vas-y le premier, Jerry!
Non, vas-y, toi! Je te suis!
Ah bon? Ok, si tu veux.
Jerry Coltrane semble habité d'une nervosité qui dépasse le cadre de son évasion.
Smith patiente une poignée de secondes, le temps que Maton et Chien marchant le long du couloir d'en bas disparaissent de son champ de vision.
Allez !
Courageux, il se lance, empoignant la corde avec fermeté, laissant ses jambes faire le reste. Le corps lové autour de ce fil d'espoir, il se hisse rapidement au milieu de son périple et se dit que tout ne va pas si mal dans le fond. Ce bougre de Coltrane n'est peut-être pas si mauvais, ni juste un peu.
Soudain, la sirène retentit bruyamment. Smith vient d'être repéré. Au sol, les gardes accourent tout de go, formant bientôt un cercle, entourant de loin le funambule. Projecteurs braqués sur lui, tireurs d'élite retenant leur souffle et leurs armes, on sent bien que la situation devient critique.
Ne bougez plus, je répète, ne bougez plus ou nous tirons.
Crache un mégaphone. Smith regarde son compère resté à quai. Ce dernier, décomposé, lui lance dans un souffle.
Je suis désolé, ils m'ont obligé à le faire.
Sale traître !
Lui réplique Smith, réalisant à présent le sordide de la situation. Accroché à sa corde, comme on s'accroche à un rêve prêt à échouer inexorablement, George Smith voit trois options se profiler. Soit il continue son chemin et se fait tirer comme un lapin. Soit il reste immobile, attendant les instructions de la garde. Soit il saute et finit les problèmes.
Ne bougez plus, nous répétons, ne bougez plus.
La corde vibre sous son poids, il sent la fatigue l'envahir, son rythme cardiaque s'accélère drastiquement, le brouillard l'envahit, la panique aussi.
Tout est fini. Que va-t-il faire?